tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. Double actualité éditoriale pour notre invité de 12h55. Aujourd'hui, le paléo-anthropologue Pascal Pic, maître de conférence au Collège de France. Une histoire du patriarcat, ou plutôt des rapports entre hommes et femmes, dans un livre qui paraît chez Odile Jacob, et l'évolution créée à la femme, et un appel à faire front contre la pandémie, dans un autre essai publié aux éditions de l'Aube, S'adapter ou périr. Mais d'abord, S16, chez Island Records, Universal Music, un nouvel album pour Woodkid, l'enfant de bois. Taillé avec soin, sculpté à sa mesure, artiste touche à tout, Johan Lemoine alias Woodkid est notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast sur franceculture.fr ou sur la toute belle, toute nouvelle appli Radio France.
La grande table. Olivia Jesbert.
Il s'est d'abord fait connaître avec ses réalisations de clips, d'abord réalisateur pour des artistes comme Yael, Katy Perry, Lana Del Rey ou encore Taylor Swift, avant de développer son propre univers musical. Il a multiplié depuis les collaborations avec des chorégraphes, avec des designers, avec des cinéastes, avec des plasticiens. Bonjour à vous, Woodkid.
Bonjour.
Bonjour. 7 ans entre votre premier album, The Golden Age, et ce second. Comment vous avez utilisé ce temps-là? Est-ce qu'il faut forcément, quand il y a du temps, un temps long à soi, tenter de le mettre à profit?
Oui, alors j'ai pas pensé à 7 ans comme... J'ai pas conceptualisé ce temps-là, c'est-à-dire que c'est le temps qu'il m'a fallu pour avoir envie de faire un nouvel album, ou en tout cas de le terminer. Mais c'était un temps de collaboration, d'apprentissage, un peu d'ombre aussi, parce que ça fait du bien, l'ombre. Et puis c'était un temps important pour moi, parce que c'est un temps qui m'a permis de me faire un petit peu oublier et de rechallenger un tout petit peu mon désir d'être entendu, d'avoir des choses à dire. Et puis de faire un album qui n'est pas un album qui surfe sur le succès du premier, en fait. C'est un album qui a peut-être plus de choses à dire, j'espère en tout cas, mais qui vit par lui-même.
En tout cas, qui dit autre chose, quelque chose qui correspond peut-être plus à l'homme de 37 ans que vous êtes aujourd'hui qu'à celui qui avait à peine passé le cap de la trentaine au moment de ce premier album. Vous dites, un peu d'ombre, ça fait du bien. Ça veut dire que la lumière, ça peut aussi brûler ce succès massif quand même, de The Golden Age. Ça vous a un peu sonné?
Oui, c'est, de toute façon, c'est un changement de vie. Je suis passé de peu à beaucoup. Et forcément, il y a un temps de digestion. C'est comme après un très gros repas, il faut prendre un peu de temps pour le digérer. Aussi parce que je crois que très vite, j'ai senti qu'il y avait dans le petit sentiment d'ébriété qu'il y avait avec le succès, qu'il y avait un danger aussi avec ça, qu'il fallait pas trop se baigner dedans. Donc très vite, je me suis dit, oula, attention. Attention, c'est peut-être, ça va devenir trop facile, donc forcément le retour de bâton sera encore plus fort par la suite.
C'est pas facile aussi d'avoir la présence d'esprit dans des moments comme ça, de se dire ça et de penser à prendre peut-être le recul nécessaire pour voir tout ce qui vous est déjà arrivé.
Ouais.
Et il y a cette chose avec vous, Woodkid, on a toujours l'impression que tout le monde vient vers vous naturellement, que votre téléphone sonne en permanence, allô c'est Lana Del Rey, allô c'est Rihanna, allô c'est... et que tout le monde vous appelle pour collaborer avec vous. Est-ce qu'il vous est aussi arrivé à vous d'aller chercher des collaborations, des gens avec qui vous vouliez bosser, avec les dents?
Ah oui, il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont toujours dit non, mais ça fait partie du jeu. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière jusque maintenant, et j'ai l'impression que j'ai travaillé à cette chance, mais qu'il y a quelque chose aussi du destin qui fait que je ne suis pas responsable aussi de mon succès. C'est en ça que je garde un petit peu de distance et d'humilité par rapport à ça, c'est que je suis très privilégié, j'ai un alignement de planète qui est assez bon. Et voilà, donc ça aide. Comme je me suis jamais dit, déjà un, que je ferais de ma vie, que ma carrière de chanteur ferait ma vie, et qu'en plus j'arriverais comme ça à explorer Hollywood, à explorer toutes ces contrées lointaines qui sont un peu le haut de la pyramide pour moi, comme je me suis jamais dit que c'était mon but. En fait, et que c'est arrivé comme ça, il est facile pour moi aussi d'y mettre une distance quand je sens que c'est trop, ça teinte trop ma vie, ou quand ça me décolle trop de la réalité.
Et du coup, la réussite pour vous, en votre fort intérieur, ça se mesure à quoi?
Ah, ça se mesure pas, justement. Je crois que c'est ça, mon grand moment de vie, c'est de, en ce moment, c'est de comprendre qu'en fait, le concept de succès est sûrement quelque chose qui ne se mesure pas avec des chiffres. Quelque chose de beaucoup plus abstrait que ça, beaucoup plus intérieur. Et en fait, je pense que cet album parle aussi de cette remise en question-là. Il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Minus 61, qui est le dernier titre de l'album, qui fait où j'ai l'impression de parler de moi à travers un espèce de mania de Wall Street qui voit le monde s'effondrer parce qu'il n'a fait que canaliser le monde par des chiffres, en fait, et qu'il se rend compte qu'en fait, il y a quelque chose de pas viable là-dedans. Et je crois que je parle un peu de moi là-dedans. Mais...
On écoute un extrait de ce morceau, Minus 61.
Minus 61. Now the water level rises high in my cold paradise, where men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I belong?
C'est presque un décompte avant la fin du monde.
Hein, oui, mais c'est un décompte dans le désordre. C'est les chiffres en japonais chantés par le Suginemi Junior Chorus que je suis allé enregistrer à Tokyo. J'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et c'est une idée de chiffres qui se dérèglent. Donc c'est un décompte dans un sens comme dans l'autre. Il y a un peu de, une référence à Einstein on the Beach derrière ça, mais avec cette espèce de culture Ghost in the Shell Akira que j'ai ramené dans cette espèce de minimalisme années 70 américain. J'ai essayé de faire la fusion en un morceau. De mes deux amours, en fait, pour deux continents.
Et le clip, il existe déjà pour cette, ce
titre-là ? Non, il n'y a pas de clip prévu, mais...
Est-ce que les images sont déjà dans votre tête ?
En tout cas, il y a des images dans la chanson. Je ne sais pas si je les paraphraserai en clip, mais il y a cette idée de New York pris dans la glace. Ouais. Mm.
Et pour ce titre, Minus 61, vous l'évoquez, vous vous êtes entouré d'un chœur d'enfants de Tokyo, avec cette dimension chorale assez vertigineuse. Vous aimez bien ça, jouer aussi dans un même morceau avec plusieurs répertoires, ce côté très éclectique dans un titre même.
Encore plus maintenant. Et ça vient aussi beaucoup de ma collaboration avec Nicolas Jesquer sur les 10 dernières saisons de ses défilés chez Louis Vuitton. Il m'a confié la musique de ses défilés et j'ai exploré énormément musicalement. Là où au début je pensais que ça allait être une collaboration, j'allais faire des musiques de défilés, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Qu'il y avait un génie créatif chez lui sur lequel je pouvais me calquer ma démarche artistique et se faire se rencontrer plein de mondes différents comme ça.
Thank you.
Depuis 10 ans, vous signez en effet la bande-son, la musique originale du défilé Louis Vuitton, fruit de cette amitié, de cette collaboration avec le designer Nicolas Ghesquière. C'est lui qui tient aujourd'hui les ciseaux d'or de cette maison. Ces compos, vous les avez rassemblés sur un EP. Quand vous dites le génie de Ghesquière, ça, c'est quoi? C'est aussi un art du patchwork qu'on retrouve dans la musique et que vous avez appris au moment de ces compositions-là. Là, par exemple, c'est plutôt dans cet extrait qu'on entend, on imagine un peu vos créations à vous, mais on retrouve des influences, 37-2, justement.
Ah oui, là, en l'occurrence, c'est ça.
Ouais.
Alors ça, c'est un défilé particulier. Ouais. C'est un défilé où on a là, celui-là est particulier, parce que c'est un mash-up de plusieurs morceaux. Ce qui est génial avec Nicolas, c'est qu'en fait, parce que c'est aussi le monde de la mode, c'est un monde qui va très vite et qui est très en avance. Donc moi, ça me tire en avant, notamment sur l'idée de qu'est-ce que le laid, qu'est-ce que le beau. Et que la mode a toujours eu ce train d'avance sur l'idée du laid et du beau, de confronter l'œil à des choses qui sont parfois dérangeantes et qui deviennent par la suite la norme d'une idée de beau. Nicolas a beaucoup ça, c'est-à-dire que souvent au mood board, quand on est autour de la table et qu'on regarde ses créations et l'idée qui va se faire d'une femme, par exemple, il y a des choses pour moi qui me choquent au début. Je me dis, tiens, c'est intéressant, pourquoi est-ce que ça me choque? Parce que souvent, c'est des mondes qui se rencontrent qui n'ont pas à se rencontrer, ou dont on ne voudrait pas qu'ils se rencontrent. Des couleurs, des textures, des inspirations. Et c'est vrai que beaucoup, sur notre travail, je me suis calqué, j'ai paraphrasé, en fait, musicalement. Un jour, il est venu me voir en me disant, voilà, c'est une fille qui est une espèce de fille qui vient d'une espèce de culte des années 70, qui est un tout petit peu occulte comme ça. Et en même temps, c'est un peu des kimonos. Donc là, je me dis, tiens, mantra, musique répétitive et haka de judo. Et hop, je mélange ça. Et en fait, ça me donne le résultat que ça me donne, qui est cette espèce de folie de collision, en fait.
Mais il y a un langage commun, il y a un champ lexical commun entre le son,
oui.
Entre le son et le costume, entre le son et le vêtement, la mode et la musique.
Alors déjà, moi, comme je suis réalisateur à la base, le sujet du costume, c'est un sujet qui fait partie de mon travail. Je dois avoir un avis dessus. Parfois, le vêtement, la silhouette peut faire 50% d'une image, même plus. Donc, alors sans parler de mode, mais le costume est un sujet pour moi. Puisqu'il raconte aussi les personnages, il raconte des histoires. Donc déjà, il y a ce point commun, enfin, il y a ce point de rencontre, de dialogue avec Nicolas, sur la vie du vêtement et la vie de ce qu'il raconte. Et après, il y a aussi le fait qu'on a des goûts en commun musicaux, cinématographiques, c'est un passionné de science-fiction comme moi. Donc il y a beaucoup de points communs qui fait que dans les éléments de langage, on se retrouve tout le temps, en fait.
Alors le beau et le lait, est-ce que c'est comme le j'aime et le j'aime pas? C'est-à-dire quelque chose de très subjectif?
Ah oui, c'est très subjectif et surtout il y a plein de choses entre les deux. C'est ça qui est formidable. Il y a plein d'ambiguïté entre le j'aime et j'aime pas. Il y a qu'est-ce que ça me provoque? Pourquoi est-ce que ça m'agace? Pourquoi est-ce que ça me séduit? Est-ce que c'est trop séduisant? Est-ce que j'aime trop? Est-ce que c'est pas un ennemi parce que j'aime trop? Pourquoi est-ce que ça me provoque autant de rejet? C'est certainement qu'il y a quelque chose qui m'attire dedans. Souvent, je dis, quand je parle de films, que les films que je finis par aimer le plus sont ceux que j'ai rejetés le plus au début. C'était le cas avec Mélancolia, par exemple, qui est un film que j'ai rejeté en bloc quand je l'ai vu, parce que j'avais l'impression d'être agressé. Et en fait, je me suis rendu compte par la suite que c'était un de mes films préférés, parce que c'était celui qui m'avait le plus déplacé, en fait.
Si on applique cette distinction entre le beau et le laid à la musique, mais aussi à l'image, est-ce qu'on peut dire que vous n'aimez pas que l'image ou que le son soit trop beau, que vous essayez parfois de les salir, de les endurcir?
Ça, c'est nouveau pour moi. Oui, je me méfie de la beauté, en fait. Je me rends compte qu'elle est un plus grand ennemi que la laideur. La laideur, elle est facile à identifier. La beauté, elle est trop séduisante. Il y a quelque chose avec la beauté qui peut cacher des intentions malhonnête parfois. Et peut-être qu'il y avait un peu de ça dans mon premier album. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore complètement aligné, que j'ai l'impression d'avoir réaligné un tout petit peu en rendant mon album plus laid, en fait, en ayant moins de respect pour le son que je fais aussi. En ayant plus de... En y mettant une petite touche de cynisme, en fait.
Et du coup, une sincérité, en fait.
J'ai l'impression, étrangement, ouais.
Donc cet album, si on revient à la question de départ, vous diriez qu'il est réussi?
C'est trop tôt pour le dire. Je pourrais le dire en fonction de ce que je vais faire derrière.
Ça va dépendre de quoi? De la réception des autres?
Non, de ce que moi, créativement, je vais... Quel va être le constat de cet album? Vers quoi il va amener créativement? Puisque c'est un album de doute et de remise en question, il n'existera que par ce qui arrivera derrière, pour moi, à titre personnel.
France Culture avec Woodkid jusqu'à midi et demi. On va écouter le titre d'ouverture de ce nouvel album, le deuxième, S16, S16, Goliath, c'est ce titre. Goliath, titre d'ouverture du nouvel album de Woodkid, Johan Lemoine avec nous jusqu'à midi et demi.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Ce titre Goliath, si cinématographique, les images elles sont là avec ces sons. Est-ce que d'ailleurs dans vos musiques, il vous arrive de bidouiller les sons comme on peut le faire à l'image? C'est-à-dire que pour vos films, vous travaillez avec des, avec de la 3D, avec des effets spéciaux. Est-ce qu'on peut appliquer les mêmes effets à la musique qu'à l'image?
Oui, les effets d'illusion. Moi, ça m'a beaucoup amusé sur cet album. C'est-à-dire de jouer avec le trouble du réel et du digital, par exemple, de l'organique et du digital. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, on écoute des vraies cordes ou on écoute des fausses cordes? Est-ce qu'on écoute des vraies percussions ou des fausses percussions? Pour qu'il y ait toujours ce trouble, j'adore qu'on ne puisse pas me dire si ma musique est de la musique électronique ou si elle est une pop de chambre ou si c'est de la pop orchestrale. Parce que justement, je trouve qu'il y a, quelque chose d'amusant à ça. Il y a quelque chose d'un peu futuriste aussi, qui m'excite beaucoup dans l'idée que on peut aussi prendre, on peut aller à Abbey Road enregistrer London Symphonic et le ramener et puis de bidouiller tout ça pour en faire un son électronique en fait, de désacraliser aussi la prise d'orchestre, de désacraliser le studio et que parfois il y a des choses qui peuvent aussi se passer que dans un tout petit ordinateur. Ça c'est aussi ma passion de la musique électronique et de la manière de produire la musique électronique qui émerge là-dedans.
Et sur le fond, c'est intéressant parce que c'est un album que vous dites vous-même, très intimiste, qui parle de vous, de vos doutes, de vos addictions, de vos amours, de vos espoirs, de vos trouilles. Et en même temps, sur la forme, c'est une fois encore un album, dans certains de ses titres, comme ce Goliath, assez massif. Hein, ouais. Les cuivres, les percussions, les cordes, c'est toujours de belles factures, c'est des grandes productions. Quand vous qualifiez votre premier album, The Golden Age, de blockbuster hollywoodien, on retrouve un tout petit peu ça et on le retrouve à l'image hein, dans les clips que vous tournez.
Oui, alors là où il est différent, c'est qu'il est plus contrasté. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que j'ai appris au sens propre comme figuré, c'est le silence pendant ces 7 ans. Et cet album, c'est plus un album de rupture. Pour que justement, les grands moments orchestraux, que je trouve toujours très amusants à développer dans la musique, existent d'autant plus qu'ils sont mis en rupture avec des vrais moments de silence. Dans le morceau qu'on vient d'écouter, il y a des moments de silence zéro. C'est-à-dire, il y a des moments sur la courbe du son où il n'y a absolument aucun signal. Et ça m'amusait en fait, parce que c'est quelque chose que je n'avais pas du tout fait sur mon premier album. Et en fait, je me suis rendu compte que plus je contrastais, et plus le sentiment de coup de poing d'apnée était fort.
Et là, il y a qui autour de vous pour le premier album? Vous vous étiez entouré notamment des gars de The Shoes, oui, de Sébastien, d'Ambroise Villaume, de Revolver, pour la réalisation et la production de l'album. Et cette fois?
Alors cette fois, il y a Ryan Lott de Sonlux, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est un immense producteur. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui est central sur l'album, c'est Tanguy Destable, Tepre, qui a, à un moment où j'étais un peu dans le creux de la vague, au moment où je faisais cet album, parce que c'est un album qui a quand même été fait dans une forme de douleur, il est venu, il m'a sorti de mon trou, il a pris mes sessions de travail et il m'a dit, moi je vais mettre de l'ordre dans ta vie et on va accoucher cet album. Il a fait La Sage-Femme en fait. Donc Tanguy, je lui dois énormément. Et puis il y a aussi Benjamin Esser aussi, avec qui j'ai travaillé à Londres et qui m'a beaucoup aidé à sortir ce qu'on appelle les top lines, c'est-à-dire les lignes mélodiques et puis certains des textes.
Votre vie artistique, elle est vraiment affaire de collaboration, mais vous avez quand même une image de solitaire. Pourquoi ?
Parce que je pense que je suis solitaire en amour, déjà. C'est ma nature. J'ai des histoires d'amour folles avec mes amis et j'en ai pas en amour. Donc je pense que ça définit aussi ma personnalité, c'est-à-dire je suis quelqu'un de meute, mais je suis un célibataire dans tous les sens du terme, artistique comme sentimental.
Oui, sans vous inscrire dans un mouvement. Et d'ailleurs, ce disque, il n'est pas étiquetable en soi.
Oh, alors ça, j'en suis ravi. Vous m'en voyez ravi. je dis souvent que je préfère me prendre un mur avec une musique qui j'espère prend des risques ou qui est un tout petit peu singulière, plutôt que de faire quelque chose qui marche mais où j'aurais un sentiment de tiens ça ressemble un peu à ça ou ça ressemble un peu à ça ressemble trop à ça ou ça ressemble à ce qu'on entend à la radio ou ça ressemble à ce qui est dans toutes les playlists Spotify. Je serais triste de ça, je pense.
Un mot de ce Goliath aussi et de ces monstres, de ces géants qu'il va falloir terrasser un jour ou l'autre. Quels sont-ils pour vous, ces monstres auxquels on doit aujourd'hui se mesurer?
Alors, dans mon cas, quand je fais l'album, je parle vraiment d'un espèce de démon intérieur, qui est, je pense, quelque chose auquel les gens peuvent vraiment s'identifier, parce que c'est surtout aujourd'hui. Mais en plus du démon intérieur, c'est l'idée du poids du monde. On se rend compte qu'il y a, visiblement quelque chose du monde qui est dysfonctionnel, qui est pesant pour tout le monde. Je pense que c'est assez évident. Je pense que l'idée de ces grandes forces peut être vue de plein de manières. C'est-à-dire qu'on peut, chacun peut s'identifier comme il veut à l'album. C'est-à-dire on peut y voir le défi écologique parce qu'il y a de ça dans le premier clip de Goliath. Je suis allé tourner ces immenses excavatrices qui mangent la planète en Europe de l'Est. On peut y voir l'idée du montée de l'extrême droite partout dans le monde. On peut y voir la montée de l'information, la furie du monde, la vitesse du monde, qui est quelque chose qui est hallucinant. Moi, c'est quelque chose dont je, à titre personnel, alors je relativise hein, parce que ma vie est douce, mais la vitesse du monde est quelque chose qui m'affecte. Dans mon travail, je trouve que la vitesse qu'on nous demande, le train qu'on nous demande de prendre constamment, va beaucoup trop vite. Et ça, pour moi, c'est une force titanesque de ralentir ce train-là. C'est titanesque comme effort, spécialement quand on est comme moi, exposé, signé dans un grand label, etc. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'est un challenge hyper séduisant, hyper intéressant, parce que je trouve qu'il y a quelque chose du contemporain qui appelle à une idée du ralentissement.
Oui, on sent le rouleau compresseur du temps ralentir, apprendre à douter aussi, accepter ses fragilités.
Ouais. Bah ça, oui, ça fait partie du grand inventaire du monde aujourd'hui.
Mais si on fait déjà tout ça à 37 ans, qu'est-ce qui va rester pour les 40 années à venir?
Moi, je pense que malheureusement, j'ai peur de ne jamais résoudre ça. Je crois que c'est pas une histoire d'étape, c'est juste que c'est une identité de vie. C'est-à-dire, douter, c'est aussi très positif et c'est ce qui permet d'avancer. J'espère que je douterai de ce que je dis aujourd'hui dans 10 ans quand j'écouterai cette interview. Je dirai, mais c'était n'importe quoi et que je continuerai à avancer comme ça.
J'espère qu'elle restera, surtout cette interview.
Bien sûr qu'elle restera.
Sur tous les supports. Juste un mot quand même de votre collaboration avec Sidi Larbi Cherkaoui. Ce sera du 4 au 28 novembre sur la scène de l'Opéra de Paris. Vous retrouverez le chorégraphe. Il vous a demandé de composer la musique de cette pièce contemporaine, Exposure, avec des costumes signés Chanel, pour le coup. Pendant le confinement, c'était un pas de deux avec 1000 pieds. Il y a 6 ans, c'était un duo avec JR pour le ballet Les Bosquets, pour le New York City Ballet, que vous retrouvez l'année d'après pour le court-métrage Hélice. Il y a toutes ces collaborations donc avec des plasticiens aussi et des chorégraphes sur la scène, le ballet, ça va être le dernier
temps. Ça risque d'être ma seule chance d'être sur scène.
On vous y retrouvera parce que la tournée, musicale, on ne sait pas, c'est pour 2021.
Non, c'est
si
tout.
Tout va bien, les concerts bientôt. Merci beaucoup à vous, Wizkid.
Merci.
S16 ou S16, c'est le titre de ce nouvel album, donc le deuxième, le vôtre. Merci.